Écoutez bien. Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 dopsons.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
Aujourd'hui, là, donc, l'histoire est l'histoire de deux blondes, pour changer un petit peu. Donc, la scène se passe sur un voilier. Donc, il y a deux blondes qui sont sur le pont et le capitaine vient les voir et leur demande « Voilà, madame, je voudrais que vous me mesuriez donc, la longueur du mât, s'il vous plaît. » Alors, elles essaient avec un mât, avec un mètre métallique, mais n'arrivent pas. Donc, elles ne peuvent pas atteindre le haut. Donc, elles se posent des questions, mais tout auprès d'eux, il y a un monsieur qui vient les voir. Il lui dit, moi, je suis ingénieur, je vais vous trouver une solution. Donc, la solution, tenez la voilà. Donc, il prend le mât, le décroche, et en fin de compte, pose le mât sur le plancher du bateau. Et donc, il lui dit, maintenant, vous pouvez mesurer. Et la blonde lui répond, mais vous avez rien compris. C'est pas en longueur qu'il nous faut, c'est en hauteur.
Normal, différent, cheveux longs, cheveux courts, normes européennes, production, standardisation, paranormal, bonne éducation, travail, vie de couple, enfant, maison, chien, voiture, marginalité, mode de vie, différence physique, mentale, comportementale, vestimentaire, agressivité, peur, hors normes et normes, individu, groupe, société, pouvoir, adolescence, communauté, habitude, jugement, obligation, exclusion, reflet déformant, handicap, QI, test, politique, rébellion, sans foi ni loi, auto-justice, prison, psychiatrie, santé mentale, sentimentale, sexualité, surdoué, record, loi. Vous l'aurez compris, Ozone Libre est une émission différente pour parler de la norme et de la différence. Mais qu'est-ce que la norme ? Une norme, du latin norma, équerre, règle, désigne un état habituellement répandu, moyen, considéré le plus souvent comme une règle à suivre. Ce terme générique désigne un ensemble de caractéristiques décrivant un objet, un être, qui peut être virtuel ou non. Tout ce qui entre dans une norme est considéré comme normal, alors que ce qui sort est anormal. Ces termes peuvent sous-entendre ou non des jugements de valeur. Pour répondre à nos questions et nous éclairer sur cette question de la norme, nous recevons aujourd'hui M. Ahmed Ghazi, ethnopsychologue, fondateur du centre de formation ATFOR, approche transculturelle, ethnopsychiatrie, formation.
Aujourd'hui, donc, le sommaire, une interview paranormale, des musiques hors format, un micro-trottoir bien cadré, une petite cuisine aux normes européennes, des lectures standardisées, un épisode du Narvalo, une série normale, une minute du pôle administrativement en règle.
Et maintenant un petit texte de Rémi, moi-même, myself, un texte sans employer la lettre I et exprimant un compliment. Le voici, je vous le lis. Après tout, je pense te narrer un mot que je te pense adresser, car je pense que ce mot est un mot créé pour vous. Je me permets le vous, à présent, ma belle. Qu'en pensez-vous que je vous parle de ce mot ? Peut-être me donnerez-vous votre accord de façon correcte et posée. Je peux me permettre à présent de vous déposer devant votre séance ce mot. Je vous pense et sans prête. Je vous le lance. Vous êtes, vous et votre être, mon adéquate. C'est cela, mon complément. Nous ne sommes qu'un. Vous, charmante, élevée de façon noble et à mon corps et mon corps de pauvre air. Allons jeter ces carcans nous en serrant et partons tous deux, devenus un sur les routes, s'offrant à nous, mon adéquate. Bagnodons à l'aventure pour créer ou rencontrer ou raconter et être avec ce mot présent dans nos cœurs, notre, votre mot, je le répète, je me répète, ce mot peut le répéter jusqu'à la notre présence en ce monde, vous êtes mon adéquate.
tombe sur son grand côté. Là, je vais m'allonger là, dans ce parc fermé. Un feu, rien que soi, déplier les doigts. Ça va, ça va, ça va, ça va. 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 Allez.
C'était Bertrand Belin, ça va, ça va, ça va, ça va. Mes enfants, pour réchauffer nos idées sur la norme et la différence, nous accueillons gentiment doucement un grand monsieur, Ahmed Ghazi, directeur du centre de formation ATFOR, ethnopsychologue-chercheur. Alors, ma première question, qu'est-ce que l'ethnopsychiatrie ou ethnopsychologie ?
Bonjour à tous.
Bonjour.
Merci de m'inviter déjà. Alors, l'ethnopsychiatrie, l'ethnopsychiatrie, c'est une discipline qui est liée aux soins par le biais de la culture. C'est-à-dire, au moment où le diagnostic occidental a oublié toute une population occidentale, l'ethnopsychiatrie est arrivée pour répondre à cette faille. À partir de là, il faut comprendre le parcours de la personne, son histoire, sa blessure. Parce que tout simplement, chacun de nous est différent. L'ethnopsychiatrie vient pour prendre en charge toute la dimension culturelle pour donner à la personne sa dignité dans le soin. Voulez-vous que je continue ou je...
Non, il y a parallèlement à ça... si vous pouvez nous donner parallèlement à ça aussi la définition de la norme. Si ça va de pair avec...
Bien sûr. Vous savez, c'est... En ethnopsychiatrie, si vous voulez, la norme, ce n'est pas comme à l'occidental. C'est-à-dire, nous sommes devant la culture traditionnelle, et la culture traditionnelle est gérée par le groupe, et non pas avec la personne. Nous sommes devant le moi collectif. Et tout ce qui concerne le moi collectif, c'est-à-dire la dignité, le respect, tout ça, ce sont les normes de la culture traditionnelle. C'est-à-dire, il n'y a pas le « je », il y a le « nous », parce que la personne appartient à un groupe. Et c'est le groupe qui va valider, c'est-à-dire la norme. La norme, il n'est pas écrite. Il n'est pas écrite du tout. mais elle fait partie des coutumes. Cela dit, ça reste toujours quelque chose de très important. C'est-à-dire, quand on est dans ces cultures-là, que l'hypnopsychiatrie gère, on est toujours devant de rendre des comptes devant le groupe. La personne, il rend toujours un compte par rapport à son groupe d'appartenance. Je dis bien d'appartenance, parce qu'il y a deux groupes. Il y a le groupe d'appartenance et le groupe de référence. L'appartenance, c'est la famille et le village, tout ce que vous voulez. L'appartenance, la référence, c'est un groupe auquel on souhaite devenir quelqu'un. Donc voilà, en ethnopsychiatrie, il n'y a pas cette norme rigide, mais nous sommes devant quelque chose qui est flexible par rapport, c'est-à-dire à l'ensemble.
Et la norme créait-elle de l'exclusion ou des exclus?
Complètement, complètement, complètement. Vous savez, la norme, selon votre traduction que j'approuve, c'est une règle, c'est-à-dire, ça vient du latin, c'est une règle à suivre ou pas suivre, bien entendu. Mais je tiens à vous dire, dans toute société, il y a des normes, bien entendu, bien entendu. Mais la norme, c'est quoi? C'est-à-dire, quand on n'arrive pas de rentrer dans le concept universel qui est adopté par les gens, nous n'avons pas de place. Bien entendu, y compris dans les cultures traditionnelles, il y a certaines normes, on ne peut pas le nier, il y a certaines normes. Il faut toujours rendre des comptes, mais si on n'arrive pas, c'est-à-dire vraiment à remplir son devoir, on est rejeté. Si je parle, par exemple, je prends un exemple qui me touche énormément, auquel je travaille, c'est l'excision. Dans certaines cultures africaines, elle fait partie des normes de certaines ethnies. Si on ne rentre pas, on est rejeté. Donc ça fait partie des choses. Je prends le ramadan dans les cultures musulmanes. Si on ne fait pas le ramadan, on est rejeté. C'est le côté religieux. Et j'en passe. Donc c'est-à-dire, il y a... Mais là où la norme devient évidente, c'est qu'on ait un choc entre deux cultures. Quand on vient en Occident, on sent qu'on est loin. On devient quelqu'un différent. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'autre.
Comment on peut alors l'appliquer?
Appliquer comment le...
La norme.
La norme. Vous savez, en Occident, vous savez, il y a des lois, des décrets, de tout ça. Donc la norme, elle est... Mais quand on est dans les cultures, je parle de moi, la culture traditionnelle, la norme, elle se loge dans la tête du sage. C'est le dépositaire des règles. C'est le dépositaire de tout. C'est-à-dire, nous sommes, comme je dis, et je répète, nous sommes devant le moi collectif. Et le moi collectif est géré par, c'est-à-dire, un ensemble de gens. Et bien, c'est ces gens-là qui peuvent vraiment donner la norme qu'on peut le suivre. Mais simplement, la norme n'est pas écrite. Vous savez, il est héréditaire, tout ça, d'une manière traditionnelle, parce que nous sommes dans l'oralité. Les cultures traditionnelles, c'est toujours l'oralité. Donc, c'est pour ça que les normes sont là, fait partie de la vie.
Et justement, comment se construit une norme?
Eh bien, écoutez, ça se construit déjà... Je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais bien vous dire. Il y a, par exemple, je prends l'Afrique noire, il y a des rites initiatiques. Si je parle des rites noirs, c'est-à-dire, je parle des Peuls, du Douala, je parle du Douala, je parle du Suninke, mais il y a des rites initiatiques. Appartenir à un groupe, c'est être initié. Donc c'est déjà des normes. C'est se comporter tel, faire des choses telles, c'est une identification. Vous savez, on va jusqu'au bout de porter même le tatouage de certains rites, ça fait partie des normes. Donc, c'est initié, être initié, avoir une norme. Mais j'ajoute une petite chose, vous savez, n'oublions pas le côté religieux, il fédère beaucoup de normes. N'oublions pas ça. Quand on est dans la religion, nous avons des normes et la culture ajoute quelque chose de plus.
Alors, on va maintenant écouter un micro-trottoir. Dans la rue, on a posé à des passants la question « Qu'est-ce qu'une personne hors norme ?»
Qu'est-ce qu'une personne hors norme ?
Intéressante.
Quelqu'un de talentueux, particulièrement talentueux.
Une personne hors norme, tout le monde est hors norme.
Une personne qui s'adapte.
Bah, quelqu'un qui respecte pas les lois.
Une personne différente ?
D'où le fait que la norme ne devrait pas exister.
Chacun est différent, il faut faire avec.
très variable, où effectivement elle ne respecte pas les codes qu'on a pu donner, ou alors c'est quelqu'un qui est supérieurement hors norme, c'est-à-dire intelligente, bien, enfin voilà, quoi, c'est pas forcément une histoire d'être dans les codes, quoi.
Tout le monde, chacun, oui, tout le monde. Je ne sais pas si vraiment il y a une personne hors norme, parce que pour moi, on ne peut pas se permettre de juger, par exemple, une supposition, le voisin, parce qu'il ne fait pas exactement comme vous, parce qu'il a une autre façon de vivre. Alors il y a beaucoup de choses, pour moi, hors norme. Mais bon, pas spécifiquement à quelqu'un.
Je vais vous demander si vous avez des réactions sur ce qu'on vient d'écouter.
Bah écoutez, c'est très intéressant d'être hors norme, parce que c'est pas dans le sens, moi, que je vois. Si vous permettez, je vais ajouter une petite chose concernant, ne serait-ce que les cultures traditionnelles, et je vous parle du surnaturel. C'est-à-dire le monde des esprits, le monde des djinns, le monde de tout cela, que dans l'Occident, c'est quelque chose qui n'appartient pas à la norme et que nos patients portent ça en eux. Et d'un coup, sont rejetés. Alors, je vais vous dire, c'est que quand on est dans les cultures traditionnelles, il n'y a pas de barrière entre le naturel et le surnaturel. Le surnaturel, c'est le monde des esprits. C'est sur le monde vraiment qu'on peut vraiment le sentir. Là-bas, il n'y a pas de barrière. La personne, ne serait-ce qu'en Afrique noire, est doublée. Il est doublé parce que son ombre se projette sur Terre. Donc, on est dans quelque chose, j'allais dire, qui est complètement différent. Parce que ce mot-là, quand les patients viennent ici, ils sont visés comme des gens délirants, hors normes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne répondent pas au diagnostic occidental établi. Vous comprenez le rejet qui est complètement violent. Alors, et je tiens à vous dire que l'Occident n'a pas banni le surnaturel, mais il l'a refoulé. Il est refoulé simplement. Parce que ce qui fait vendre les magazines, vraiment, c'est l'horoscope. On cherche quelque chose de refoulé. Et à partir de là, on a l'impression qu'on est différent, mais on n'est pas différent. J'ajoute une petite chose. Vous savez, ça fait une dizaine d'années qu'il y avait le phénomène de Harry Potter, et que vous trouvez les jeunes qui ne lisent jamais une page, et d'un coup, ils lisent des pavés. Pourquoi ? Parce que l'Occident a éradiqué le surnaturel, et d'un coup, c'est cette jeunesse-là qui allait le chercher, et aucune traduction en Afrique, ni dans le monde arabe, parce que le surnaturel fait partie d'une vie.
Quand on n'est pas dans la norme, selon ce que vous venez de dire,
oui.
Est-on anormal ou marginal ?
Complètement. Ça, je suis d'accord dans la définition. Vous savez, c'est le regard de l'autre. Quand vous ne faites pas partie des choses sur lesquelles nous sommes d'accord, vous ne faites pas partie de nous. Vous êtes rejeté. Vous n'êtes pas là. Et à partir de là, c'est complètement le rejet. Eh bien, comprenez que la personne, quand ils ne sont pas vraiment dans ces règles qui sont établies, eh bien, complètement la frustration, le tout ce que vous voulez.
Et quelles sont justement les conséquences ?
Les conséquences, oh là là, les conséquences, c'est, j'allais dire, c'est très dur, voire grave. Concernant une personne, par exemple, qui peut se rebeller contre quelque chose d'établi, ben, il n'a pas de place. Il ne faut pas qu'on oublie que là, où, toutes les sociétés, il y a toujours le chef des normes là, qui vous rappelle à l'ordre. Là. Pour qu'une société existe, ben, il a fait ses normes. Et à partir de là, si on n'est pas dans la norme, nous sommes rejetés.
Quelle différence peut-il y avoir entre la loi et la norme ?
Ben justement, la loi, elle est décrétée, j'allais dire, c'est le pouvoir public qui peut décréter des lois, des décrets, des arrêtés, tout ça. La norme, c'est plus grand que ça. La norme s'englobe et la société qui va avec. C'est-à-dire, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus large. La loi, elle est très limitée. C'est-à-dire, c'est peu. Ce n'est pas du tout quelque chose... La norme, c'est beaucoup plus grand.
Oui, les lois peuvent découler de la norme.
Oui.
Mais est-ce qu'elles peuvent aussi créer une norme ?
Oui, tout à fait.
Aussi.
C'est quoi les normes ? C'est une création pour gérer. pour donner une nouvelle identité. C'est ça les normes. C'est-à-dire, vous trouvez qu'il y a la différence, le contraire de les normes, c'est l'anomie. C'est les désorganisations, l'absence de toute norme. C'est l'anomie. Et les gens qui l'anomie, c'est l'absence complètement. C'est-à-dire, ni Dieu, ni maître, ni patron, les lois, je vis tel que je veux. C'est ça. Mais le problème, même en voulant l'anomie, on crée des normes. On sont toujours dans les normes.
Est-ce que, selon ce que vous parlez là, la norme aussi peut entraîner la loi ou peut-elle construire la loi?
Justement, elle peut influencer. Elle peut faire, tout à fait. Les normes, elle peut faire, oui, tout à fait. Vous savez, je vous donne un exemple, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui bougent et tout ça, c'est-à-dire, le ressenti général, il peut modifier, on est sensibilisé, et d'un coup, on peut même voter des lois, on peut faire des décrets, on peut modifier les choses, on peut beaucoup de choses. Donc ça, oui, tout à fait, je suis d'accord avec ça.
Alors, qu'est-ce que la norme en psychiatrie, plus précisément?
Ben, la norme en psychiatrie, c'est flou.
C'est flou.
C'est flou. Pourquoi? Parce que tout simplement, non, je vous dis franchement, tout simplement, on a voulu établir un diagnostic selon un dictionnaire et on a oublié simplement la blessure, l'histoire, le parcours des individus. C'est ça le problème. On a voulu vraiment standardiser, si vous voulez, quelque chose qui dépasse. Parce que l'humain, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand. Et sans oublier, c'est pour ça que je vous dis l'ethnopsychiatrie est arrivée. Pourquoi? Pour répondre à un diagnostic des gens qui étaient oubliés. Est-ce que vous savez-vous qu'à l'époque, tout ce qui est énorme, c'est la psychiatrie occidentale, jusqu'à l'arrivée de Georges Devereux, qui a dit tout simplement, le symptôme n'est que le reflet de sa propre culture. Et là, il a renvoyé les gens pour comprendre. Donc, la norme reste toujours floue. Mais l'ethnopsychiatrie, là, pour dire qu'il y a d'autres gens qui existent, à comprendre leur idée.
Quelle est la légitimité
du
psychiatre ou du psychologue à déterminer une norme?
Écoutez,
est-ce qu'il y a légitimité?
Eh bien, écoutez, je vais vous dire franchement, tout soignant, il faut qu'il soit vraiment très humain, très ouvert et pas du tout assujetti à son diagnostic à lui. Parce que l'idée, on veut simplement valider. J'allais dire quelques critères selon un tableau clinique, je trouve qu'on passe à côté de quelque chose. Donc c'est pour cela que moi je vous dis, quand on est devant le soin, nous sommes devant l'humain. Et l'humain, elle a un parcours, une blessure, une histoire, et beaucoup de choses. Donc comment voulez-vous arriver à un diagnostic sans comprendre celui qui est en face de vous? Quelle est sa croyance? Quelle est sa manière de voir les choses? Mais comment voulez-vous mettre un diagnostic froid? Sur quels critères? C'est horrible. J'adhère pas à ça. J'adhère. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on prenne en charge l'ensemble pour comprendre que nous sommes en face de l'humain et pas en face d'un diagnostic à valider.
Alors, notre société, je vais revenir un peu à l'Occident peut-être, mais est-elle plus en plus normalisante? Et du coup,
dans quel sens?
Est-ce qu'elle veut, peut-être par une multiplication de lois, mais codifier de plus en plus comment on se comporte?
Écoutez, je ne sais pas si vous avez un peu de temps, j'aimerais bien vous expliquer. Voilà. Vous savez, les sociétés, toute société était traditionnelle avant qu'elle soit moderne et hyper moderne. Qu'on soit clair. Il y a moins 150 000 ans, toutes les sociétés étaient traditionnelle, c'est-à-dire agricole, dont la gestion est collective, dont la région est présente, et à partir de là, l'individu appartient à son groupe. Mais les sociétés, parlons de la société française, elle devient moderne, je prends à partir de 1789 à 1945. Très bien. Qu'est-ce qu'on a fait? Les normes vont changer, ne sont plus, locales, mais devenir régional. On a créé les régions. Et vers les régions, on a créé le sentiment national, patrie, le drapeau. Là, En gros, et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est attaqué à la religion. La laïcité est arrivée en 1905 et à partir de là. Et là, on n'est plus dans l'hétéronome. On dit, l'hétéronome, c'est le contraire de l'autonome. On est dans l'autonome. Là, c'est l'individu qui choyait. Et à partir de là, on se dit. Et quand les sociétés vont devenir hyper, c'est-à-dire modernes, je prends entre 45 et 68, là, c'est l'identité. C'est le moi, c'est le je. Je vote, je suis libre, je suis vacciné, je suis ceci, je suis cela. Et à partir de là, l'individu devient le centre. La majorité est arrivée dans les 70 avec le gouvernement de Giscard. Oh, tu votes, à partir de là, tu t'appartiens. La famille, qu'est-ce qu'elle dit? À partir de 18 ans, tu n'es plus chez toi. Tu n'es plus chez tes parents. On dit, est-ce que tu es encore chez tes parents? À part 18 ans, il faut que tu voles, tu n'es plus. Donc, tout est devenu déterminé. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Le problème, on se dirige vers l'individualisme. On a cassé le collectif pour devenir individualiste. Et c'est pour cela, on court, on court, on court. Et tout ce qui est non actif, personne âgée, enfant, ce sont les institutions, les hôpitaux, les crèches et tout cela, pour que l'actif soit visible et le non actif. Quand il est malade, on n'a pas besoin de lui. Et c'est pour cela que la société, malheureusement, s'est éloignée de l'humain. Parce que c'est le rendement, c'est la rentabilité, et à partir de là, vous comprenez.
Comment nous sont transmises alors ces normes? Et si c'est comment, y a-t-il des personnes qui ne sont pas concernées à ces normes-là?
Écoutez, je vais vous dire, les normes dont je parle de la culture traditionnelle, qui est mon domaine, elles sont transmises par le biais, c'est-à-dire des Shibani. Des Shibani, ce sont les personnes, ce qu'on appelle, enfin, ici on appelle les personnes âgées, je déteste ce mot parce que nous sommes tous âgés de quelque chose. Moi j'appelle les anciens. Les anciens, ce sont qui transmettent, allô? Ce sont les anciens qui vous transmettent. Et vous comprenez, c'est parce que quand on n'a pas les anciens, c'est-à-dire, vous savez, on s'éloigne beaucoup des normes. Et pourquoi ici nous avons, dans les sociétés traditionnelles, le monde culturel, la transmission, notre histoire? Parce qu'on a mis l'ancien dans une maison de retraite. Et à partir de là, on court sans histoire. Et c'est ça le drame. Vous savez un proverbe qui dit, chez moi qui dit, l'ancien c'est comme un tronc d'un arbre et les enfants comme des branches. Et quand le tronc meurt, les branches tombent. Et d'un coup, l'Occident ne s'en rend pas compte. Il a laissé l'ancien. Et quand on laisse l'ancien, c'est-à-dire la culture meurt. Et j'ajoute quelque chose, ça va vous peut-être approfondir ce que je dis. Regardez, quand on est dans la culture des Roms, c'est-à-dire les gens du voyage, qu'ils soient des Gitans, des Niches, des Sinti, tout ça, pourquoi tant d'années, ils sont depuis le 15e siècle en Europe? Et pourquoi ils vivent encore? Parce qu'ils ont gardé l'ancien. C'est l'archive, c'est l'histoire. Et bien c'est ça la force, c'est ça l'humain. Oui.
Alors, vous avez parlé de la psychiatrie qui était occidentale, et l'ethnopsychiatrie donc, qui a voulu s'ouvrir aux autres cultures. Mais est-ce qu'il existait, j'ai l'impression que ça reste quand même une vision occidentale, est-ce qu'il existe un équivalent de la psychiatrie dans d'autres cultures? Ou quelqu'un qui pourrait prendre le rôle...
La psychiatrie. J'ai pas bien compris.
C'est-à-dire... Oui, je vais essayer d'être plus clair. En fait, même la psychiatrie, donc c'était une discipline ou une vision assez occidentale. Et donc, je me demandais s'il existait des équivalents ou quelqu'un qui pourrait prendre ce rôle dans des sociétés où il n'y aurait pas de psychiatrie, par exemple.
Écoutez... Je vais vous dire, la psychiatrie, c'est-à-dire en soi la maladie, tout ce que vous voulez, la dépression, tout ça, elle est nécessaire pour une société. C'est-à-dire on ne peut pas s'en passer. Mais simplement, moi je ne parle pas dans l'ethnopsychiatrie, mais moi j'aimerais bien mettre l'humain à l'intérieur du soi. Je vous dis simplement, en face de vous, ce n'est pas une machine, ce n'est pas un diagnostic établi, c'est l'humain qui est en face de vous. Et c'est là, j'interpelle les soignants, j'interpelle les professionnels, de comprendre le parcours de cette personne-là. Tout à fait, on peut toujours soigner, mais à condition que pas trop de médicaments pour tout. Et à un moment donné, il faut savoir, j'allais dire, faire autre chose.
Je me permets, je crois que la question de Stéphane, si je peux essayer de la reformuler, c'était de savoir si dans des cultures dites traditionnelles, il y avait, vous avez évoqué les anciens, les sages, est-ce que ce sont ce genre de figures qui servent d'interface et qui peuvent être un équivalent au psychiatre occidental ? Dans la résolution des problèmes de soit individuels soit collectifs et dans la gestion des traumas par exemple.
Oui, tout à fait. Il y a un rôle très important pour les anciens, notamment pour les au Maghreb, pour les Chibani, c'est-à-dire le petit vieux, le cheveu blanc, comme on appelle gentiment. Tout à fait. Mais il faut pas être naïf, il faut toujours un soin. C'est-à-dire le Chibani, il a un rôle de sage, mais il y a le guérisseur qui va jouer ce rôle. Il ne faut pas confondre, parce que le guérisseur, c'est quelqu'un qui guérit. D'accord ? Mais il y a plus fort que lui, et le chaman qui gère la maladie dans son parcours. Donc, il y a ces choses-là. Mais, j'ai bien compris la question, pour vous dire que le soin dans ces cultures-là, il reste toujours étayé par... la prise en charge de la famille. La famille omniprésente, parce que le moi est collectif. La maladie sologe dans ton cœur. Et vous comprenez pourquoi les soignants occidentaux, quand ils voient une famille maghrébine débarque, quand ils voient... Parce qu'ils ne comprennent pas que ces gens-là, quand quelqu'un est malade, tout le monde est malade. Et c'est pour cela, c'est une notion culturelle. Donc le sage est là pour répondre, mais aussi il y a le soin qui répondre, mais il faut comprendre la collectivité, y compris dans le soin. C'est pas un individu. Quand on est devant un individu soigné, il manque toujours quelque chose, parce qu'il est né comme ça. Ben voilà. J'ai répondu, j'espère.
Oui. Les normes, les règles, sont-elles créées pour être transgressées ou... Être à l'évolution.
Oui, tout à fait. Je vais vous dire mon point de vue. Quand les normes ne répondent pas aux bénéfices de l'être, et quand ils sont, sont édictés, comme, je prends ma position, comme l'excision, c'est une norme vraiment à manier. C'est-à-dire, quand on sent... C'est quoi la norme ? Une fois que j'étais dans une conférence, et quelqu'un qui me dit, mais docteur Ghazi, mais vous voulez toujours les cultures, mais comment vous pouvez bannir l'excision ? Je lui dis, mais on a bien banni la peine de mort, donc c'est pour cela, ça fait partie des choses. Quand les normes ne répondent pas aux besoins, au bien de la personne, pour moi, mon point de vue, il faut la bannir.
Alors, oui. Je vais vous poser une dernière question.
Mais c'est pas grave. Là, d'autres mal.
T'en passe vite. Vous parliez justement du surnaturel qu'on essaie un peu de cacher chez nous. Et prendre un exemple qui travaille tout le monde, qui est à propos de la mort ou de la représentation de la mort. Est-ce que les normes sont très différentes ?
Oui.
Est-ce qu'il y a des cultures qui n'auraient pas de rituels ?
Tout à fait. Les rites funéraires et tout ça, c'est comme si... Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est différent. Chaque culture, bien sûr. Eh bien, écoutez, il y a plein de choses. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Je prends l'islam. D'accord ? L'islam, par exemple, la notion de deuil, elle est différente par rapport à l'Occident. En Occident, qu'est-ce qu'on dit ? Je parle côté religieux, je parle côté l'Église catholique romaine. Ils disent, par exemple, il faut faire le deuil, il faut exposer la personne. Ce qui est interdit dans l'islam, il faut enterrer la personne tout de suite. Pourquoi ? Il faut garder l'image d'un vivant. On n'expose pas le mort. Donc, il faut l'enterrer tout de suite. Vous comprenez ? Donc, la notion de deuil, les gens qui disent « Ah, il faut le toucher », non, c'est archi-faux. La notion de deuil, c'est l'acceptation du départ. C'est tout. Et tout ce qu'on a fait, c'est une norme européenne. Prenons, par exemple, en Brésil, où j'étais, vous trouvez les catholiques, ils sont enterrés. Pourquoi ? C'est pas comme ici. Parce qu'il y a une autre norme. Et je prends, par exemple, même dans toutes les cultures, c'est-à-dire, je prends les chrétiens dans le monde arabe, les coptes et tout ça, il y a aussi des normes qui sont différentes. Donc, la mort, c'est-à-dire... déjà, quand quelqu'un meurt dans un hôpital, il faut qu'on se rende compte, elle n'appartient plus à l'équipe soignante. Elle appartient à la culture. C'est la culture qui est bien pour gérer. Parce que c'est fini. On ne peut pas le guérir, on ne peut pas le soigner. Elle est morte. Donc, c'est le corps, il faut qu'elle appartienne. Et bien, chaque rite... Bon, chaque culture doit gérer. Par exemple, dans la religion juive, il ne faut pas toucher l'agonisant. Il ne faut pas toucher l'agonisant. Donc, vous comprenez, ils en passent, ils en passent. Donc, les rites, ils sont là pour les normes aussi. Enfin, les rites de funéraires, ils sont là pour gérer aussi la mort. Dites-moi.
Ben en fait, on est un peu pris par le temps. Donc je...
Oui, ben, pas de problème, je reste avec vous.
Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Non, c'est la moindre des choses.
Je rappelle que nous recevions M. Ahmed Ghazi, directeur du centre de formation ATFOR, ethnopsychologue-chercheur. Merci à vous.
Merci à vous de m'avoir invité.
Weather is sweet, yeah. Make you wanna move your dancing feet. Go to the rescue.
Black Uhuru qui chantait Sunny Shiny. Et maintenant, je vous annonce la petite cuisine d'Ozone.
Alors, c'est un gâteau au raisin frais. Donc, 2 œufs, 100 g de beurre mou, 150 g de farine, 1/2 sachet de levure, 80 g de sucre, 2 grappes de raisin, 1 poignée de sésame et du sel. Alors, préchauffez le four à 180 degrés, thermostat 6. Lavez le raisin, épépinez et laissez sécher. Alors, séparez le blanc des jaunes d'œufs, blanchir les jaunes avec du sucre. Je sépare le blanc des jaunes. J'en mets un deuxième. Je mets avec le sucre, donc 80 g de sucre. Ajouter le beurre mou. On va arranger ça avec le...
Voilà.
Donc, ajouter le beurre mou, le sel, puis la farine et la levure.
Ouais.
Donc, je verse le beurre.
Ouais.
Maintenant, on se sert. Donc là, on verse le beurre dans la.
Dans la préparation.
Dans la préparation. Est-ce que ça va être bon?
Oh oui, bon.
Non, mais faut le savoir.
Le sel?
Ouais, le sel.
Ça va de là. La farine, il faut 150 grammes de farine. Là.
Donc, ça fait un petit peu de. Un petit peu de. Pardon. Un sel et chef. Comment? Un vrai chef.
Un demi-sachet de levure. Ici, quand je verse la levure. Dans l'oignon. Alors, et 150 grammes de farine. Non, une fourchette.
Vous voulez une cuillère plutôt ?
Alors, rappelons que tout ça, c'est pour faire un gâteau au raisin frais.
On peut le faire avec du raisin blanc ou du raisin noir.
D'accord. On adapte suivant ses goûts. Quoi.
Voilà, tout à fait.
D'accord. Là, on a rajouté combien de farine ?
150 grammes de farine.
150 grammes de farine qu'on vient de rajouter.
Voilà, donc là, je vais monter les blancs en neige.
Avec des grains de raisin. Alors, nous l'avons fait avec des raisins blancs, mais ça peut se faire également avec des raisins noirs.
Ou un mixte.
Ou un mix, bien sûr, oui.
On n'a pas de corde. Avec des moyens.
C'est plus compliqué.
Voilà.
On a d'autant plus de mérite.
Ouais, c'est vrai, mais
c'est plus compliqué.
Voilà.
C'est plus...
voilà. Éparpiller le sésame et enfourner la préparation, cuisée au four pendant 40 minutes à 180 degrés.
Combien de temps ?
40 minutes.
40 minutes.
C'est un texte d'Isabelle. Alors, mets-toi bien en face du micro si tu veux bien.
Aujourd'hui, j'ai décidé d'éviter les actualités. Toutes ces familles échouées, tous ces chiffres truqués. La politique sans intégrité, l'industrie contre vérité. La poésie est écrasée par oppressante réalité. La barbarie s'est installée un monde sans humanité. Naufragé, décapité, crucifié, triché, je hais les mots en haie. Un texte de l'atelier.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Il était une fois au nos futurs de, dans les futurs, un peu plus tard que précédemment, mais pas tant que ça, les vaches punk brétoliennes encerclent toujours le train narvalesque et ses passages terrifiés. Le convoi pour tous ne parvient pas à franchir les portes de Breteuil. Cherchant à intervenir, Love Crash disparaît sous le beau vidé. Et reste pour le retrouver, le narvalo et son compagnon Lambert. Youket, Marilyn, Laura Ingalls, Topfité, Bernadette Gignac, Bébert et Lafouine.
Où qu'il est, mon Love Crash ? Où qu'il est, mon Love Crash ? La chair de ma chair de ma chair.
Vin, meuf, là, les vaches flics !
On dit pas les vaches flics, c'est insultant. On dit le CBS, Charolaise Bovine de Sécurité.
Heureusement qu'elles sont là, pour assurer notre sécurité et surveiller nos baignades.
Après une courte mais brève altercation, les vaches punk, guidées à coups de gaz lacrymogènes, rejoignent les paniers à salade, ou plutôt les bétailleurs de CBS. Direction le camp de redressement par les travaux à la ferme des 1000 vaches. Au programme. Produits laitiers, gavage ou punk berga pour le récalcitrant. Disponible dans tous les restos McVache en menu Vacaloca.
Que vois-je au loin ?
Bah, toujours rien. En même temps, il n'y a pas grand-chose à voir. Mais il n'y a pas Mat Pokora nu sur les fortifs ? Il semble nous faire signe de la main. Danse-t-il ou nous interpelle-t-il ?
Sophie, tu es missionné pour entrer en contact avec cet individu ostensiblement naturiste du troisième type. La mauvaise vue sera un atout.
Et l'on voit Topfité dans son plus simple appareil s'éloigner en direction des murailles. Après quelques mètres, elle chute.
Que t'arrive-t-il, ma chérie ?
J'ai buté contre quelque chose. Attends, je tâte. C'est mou et c'est moite. Chaud et pas froid. Et ça sent la saucisse de Francfort.
Quoi ? Des sushis de Francfort ?
Non, la saucisse de Francfort, comme Love Crash.
Oui, c'est moi.
Cher sauveur, je vous remercie de m'avoir débarrassé de ces horribles vaches punk. En souvenir de cette journée, je m'appellerai dorénavant plus M. Pokora, mais M. Pora. Je supprime le co, qui signifie vache dans la langue de Justin Bieber. Pour vous remercier encore, je m'en vais vous chanter un hymne punk. Toutes ces épreuves
et ces jours maudits qui font... J'en étais chaque fois entendu dans ma vie. Pour encore supporter cela. Viens, Pépère, tu seras mon toro loco.
Sur le thème de la chevauchée des vaches qui rit, Love Crash, monté sur le dos de Bébert, le ragondais géant charge Empora. Est-ce qu'il pourra ? Oui, fit l'autre sans fil.
Nous allons à présent exécuter l'exécution du futur exécuté. Empora. Condamné à la peine de mort pour nous avoir cassé donc Love Crash, Bébert, attendez-le sur Pora au rail de mon chemin de fer privé. Chef, oui, chef. Mission accomplie. Il est ficelé comme un chessou. Il était plutôt cloué, Jésus. Pas ce Jésus-là. Plutôt le sauciflard. Autant pour moi. Continuons, écartez-vous, chef de gare, faites avancer le train sacrificiel, qu'on l'embrouille.
Adepte du nom futur, M. Pokora a rejoint ses ancêtres. Le train, après être passé sur sa dépouille à plusieurs reprises, pénètre enfin le parc d'attractions derrière les remparts de Breteuil sur Iton. Les participants à la lune de miel obligatoire prennent d'assaut les manèges à la sauce piquante. Le zin s'érue sur le grand 6 en forme d'épingle à nourrice. Les autres jettent des canettes sur des bébés phoques pour gagner des poissons rouges déshydratés. Certains tentent leur chance au concours d'euro sur le thème de la Marseillaise pour le télécrochet de Barp. Les derniers peuvent dépenser leur bon argent au stand souvenir où sont disponibles les meilleurs disques et les meilleures lunettes de M. Pokora. L'heure est maintenant venue de la nuit des noces. Nous retrouvons Lambert et le narvalo dans leur chambre nuptiale.
Mon narvalo, il est minuit 10, l'heure de passer à la casserole. C'est-à-dire, je n'ai plus très faim. Je me suis gavé de bave de crapaud. Fais pas semblant de pas comprendre. Je parlais pas de ce type de gamelle.
En effet, j'ai peur de comprendre où tu veux en venir. Youket, au pied, téléportez-moi.
Mais où et quand?
N'importe où, mais vite.
Ok, alors comme au loto, laissons la machine décider.
Ainsi se termine Mpokora, les vaches punk, mais aussi les aventures du Narvalo au nu évreux, apparemment. Mais nos héros auront-ils des enfants malgré tout? Dans quel pays se trouve Komoloto? Où, quand et avec qui retrouvera-t-on le Narvalo? Pour répondre à ces questions, rendez-vous dans Ozone Libre le 29 octobre dès 12h30.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Si je vous dis la norme,
la norme.
À quoi cela vous fait penser?
La norme, c'est chacun qui la définit. Enfin, je sais pas, mais ça dépend la norme dans quelle, dans quoi?
La rigidité.
Ça me rappelle un peu la Normandie. Mais moi, je ne sais pas maintenant si c'est ça.
Oui, ça peut être.
Mais pour moi, c'est quelque chose de bien.
Essayez de l'éviter.
Plein de principes qui sont censés régler, définir tout. Il ne faut pas sortir de la norme. Voilà.
Il n'y a plus de norme à l'heure actuelle, monsieur.
C'est-à-dire, pourquoi vous dites ça?
À chaque fois, on dit, selon la normalité, mais il n'y a plus de normalité. Là.
Tout maintenant doit être aux normes, alors. Ce n'est pas évident de vous dire quelque chose de spécifique aux normes. Disons, la nourriture, où il ne doit pas y avoir de conservateur, alors.
Des restrictions et des taquets gênants.
Le standard, la règle?
Je sais pas. C'est des règles, quoi.
En quoi est-ce important d'avoir des normes dans notre société pour...
Être respectueux de la rigidité.
Les enfants doivent être sous la normalité. Mmh. Et bon, certaines personnes aussi, aux nouveaux paroles et tout ça, là. Mmh. Mais bon, je crois que...
Pour qu'il y ait un minimum de... d'ordre, mais faut pas non plus que ce soit trop important.
Ça peut être une référence, un point de départ.
Ça occupe des gens. Je dirais pas des normes. Moi, je dirais que c'est important d'avoir des règles.
Je pense qu'à l'heure actuelle, il est nécessaire d'avoir des normes, sinon on va à la catastrophe. Hein. Tout le monde s'en fiche, donc on vous fait croire que vous n'avez pas ça dans tel aliment. Et en fin de compte, quand vous lisez un petit peu plus approfondi, vous vous apercevez que c'est du bluff.
Pour avoir des choses à ne pas respecter.
Pour ne pas faire n'importe quoi, pour donner une ligne de conduite.
Je sais pas du tout. Vivre en collectivité, quoi, c'est. Enfin, voilà, quoi, des règles à respecter.
Et qu'est-ce qu'on risque à ne pas être dans la norme?
Être l'objet de, comment dirais-je, de bassesse ou de mesquinerie, de jalousie, de choses comme ça. Mais après, si on est fort, on passe au-dessus.
Vous savez, je sais pas si on risque quelque chose. Si je vous dis ce que je pense, peut-être que ça serait mal interprété. Pour moi, les gens hors normes, ce sont les gens qui n'acceptent pas la différence. Mm-hmm. Pour moi, c'est ça. Je ne sais pas ce qu'ils risquent. Peut-être qu'ils ne se manifestent pas de façon à ne pas, à eux-mêmes, être jugés.
Pas grand-chose.
Pas grand-chose.
Être mis de côté.
Ou rien du tout, parce qu'après tout, chacun vit comme il a envie, et après tout, si on est en norme, on peut l'assumer. Ou alors, si effectivement on a édicté des règles, des codes qu'il faut respecter, on peut risquer peut-être des sanctions, des amendes, enfin voilà quoi.
D'être mis au banc de la société, voilà.
La
conséquence, c'est d'être puni par la loi.
Le rejet, malheureusement.
Une amende, prison, presse des pans quoi. Se mettre en danger.
Thank you.
as the distant blues dance on a crowded street. The temperatures are rising. Soon you're gonna be run down those burning streets. Come on, a century that's hardly on its feet. The late news breaks early. There's the sunrise from the west or from the east. And it takes every day to be surviving in the city.
Venons d'écouter Joe Strummer qui chantait Burning Streets.
Scandale. Le groupe allemand Volkscafé est accusé par la justice nord-américaine d'avoir intégré dans ses cafetières un logiciel qui permet de tricher sur la quantité de sucre réellement utilisée. Les associations de défense des consommateurs crient à l'infamie, accusant le groupe allemand de pollution glycémique. Le nouveau président des États-Unis, le Texan Chuck Norris, dénonce un acte de terrorisme anticapitaliste et annonce la fermeture des frontières. Le nouveau président français, Éric Zemmour, parle, lui, d'une manipulation des femmes qui veulent affaiblir la société en réduisant le sucre. On commence par le café. On commence par le café et on finit par manger des gâteaux Weight Watcher, a-t-il lancé ironiquement à la presse masculine. Après des années de relations diplomatiques on ne peut plus froides entre l'Allemagne et le reste du monde, le nouveau chancelier allemand, David Hasselhoff, auréolé de son statut de star mondial après son rôle épique dans la série K2000 à Malibu, a décidé d'enterrer la hache de guerre et de créer le Festival international du sucre pour tous. Une orgie de sucre qui se termina par le concert de DJ Jordi, désigné par David Guetta en personne comme son successeur au titre de plus grand artiste de tous les temps. Après une longue nuit de danse sucrée, alors que toute la planète dormait, un insomniaque qui voulait un café s'écria « Il n'y a plus de sucre !» La Troisième Guerre mondiale venait de commencer.
Je vais faire une minute du pôle un peu informative. Je vais essayer d'être court. Mais on parle de normes. Quand on parle de normes au niveau administratif, on parle de plafond de ressources. Et il y a par exemple une aide de la CMU complémentaire qui est soumise à un barème de ressources. Et ce que les gens savent assez peu, a priori, c'est que si on dépasse le plafond de la CMU complémentaire, on peut quand même parfois avoir une autre aide qui s'appelle l'aide à la complémentaire santé. Quand je dis que les gens savent pas, c'est que par exemple, il y a 1,2 million de personnes qui bénéficient de cette aide, alors que 4 millions de Français pourraient en bénéficier. En gros, si on dépasse légèrement le plafond de la CMU complémentaire, donc si on a un petit salaire ou une allocation adulte handicapé, par exemple pour une personne seule, on peut avoir une aide de la Sécurité sociale pour payer sa mutuelle. Là encore, il y a des plafonds de ressources. Donc pour une personne seule, il faut gagner moins de 11 670 euros par an. Mais voilà, pour une famille de 3 personnes, ça monte à 21 000 euros. Les aides dépendent de l'âge, comme le prix des mutuelles. Hein. Donc pour quelqu'un de moins de 16 ans, ce sera une aide de 100 euros par an. Quelqu'un qui a entre 16 et 49 ans, 200 euros. Et ensuite, 350 euros jusqu'à 59 ans et 550 euros après 60 ans. Plus il y a de personnes dans la famille, plus il y a d'aide, puisque c'est cumulable à chaque fois, et à chaque fois en fonction de l'âge. Donc n'hésitez pas à en parler à votre service social ou directement à la Sécu, si vous pensez être concerné par ce type d'aide, qui est valable à chaque fois un an. Avant, on pouvait choisir sa mutuelle, maintenant il va y avoir une liste de mutuelles agréées. Voilà, renseignez-vous.
En espérant que vous avez passé donc un agréable moment en notre compagnie et à la découverte de notre normalité, mais aussi de nos différences. Et si je vous souhaite de réécouter cette émission en postcard, et nous vous invitons à vous rendre donc sur le site de principeactif.net. Vous pourrez également laisser vos commentaires sur la page de l'émission. Nous vous remercions encore une fois, nous remercions encore une fois donc notre invité, Monsieur Ahmed Ghazi, qui nous a gentiment, doucement fait partager son expérience. Merci à l'équipe de la radio Principe Actif et à toute l'équipe d'Ozone Libre, une équipe haute en couleurs et en mots. Et merci à vous, auditeurs. Nous vous retrouvons avec plaisir le jeudi 29 octobre
entre 12h30 et 13h30, mais aussi entre-temps en guestat, ça, pendant la journée organisée pour le réseau des tisseurs de liens le 10 octobre en direct de la halle des expos.